Eh non, ce n'est pas du gloubi-boulga. C'est de l'herbe. De l'herbe.
T'es, à qui que le gourmandas? Banos Charles Tursan sur le studio 93.8 de MDM, bien sûr. 101.1, mais à Mont-de-Marsan, bien évidemment. Bonjour à tous, à Ichats, à toutes. Alors, je ne sais pas si vous avez senti, mais il y a comme un petit air d'automne qui flotte. Et moi, l'automne, ben, c'est ma saison préférée, comme tout le gourmandas. Et déjà, je commence à humer aux abords des bois. Et qu'est-ce qui vient me remplir les narines? Une odeur toute fine et subtile de champignons et de sous-bois. Alors ça, c'est l'événement du moment, bien évidemment, et c'est de ça aujourd'hui que nous allons parler. Alors, pour ne pas trop nous perdre en conjecture, on a sélectionné un champignon dont nous allons parler en particulier. C'est notre magnifique cèpe d'automne. Alors, on va faire quelque chose d'assez succinct. On va parler du cèpe. Qui est-il dans le secteur? Où le trouver, bien évidemment? Comment surtout le chercher et bien l'apercevoir, parce que c'est une véritable science et je vous assure que quand vous aurez écouté cette rubrique, vous en saurez davantage. Comment le cueillir, c'est important. Comment le préparer, comment le déguster, ça va de soi. Avec quel mets et avec quel vin. Donc une fois que nous aurons fait le tour de tout ça, je pense qu'on aura passé un agréable moment. Alors pour ce qui nous concerne, dans le CEP, dans la région, moi j'en connais surtout deux grandes catégories qui nous intéressent quasiment tous le plus, deux grands noms du cep local dans notre Chalosse, sans oublier que notre Chalosse sans aucun particularisme, aucun atavisme, est certainement l'un des terroirs, et c'est Michel Guérard qui le dit, les plus riches en saveurs pour le cep. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc nous ici, nous avons en principe, à partir de cette saison, deux grandes catégories de cèpes qui viennent dans nos bois. Le cep de Bordeaux, le magnifique cep de Bordeaux, que l'on connaît à son capette, le chapeau marron, de marron clair à marron foncé, avec des teintes bringées, couleur de terre, très voisin des feuilles d'automne, avec ce pied long et effilé, très fin et homogène, jusqu'à son sommet, et le capette, voilà, est très blanc, le capette qui doit être blanc en dessous lorsque le cep est assez jeune, d'un blanc immaculé dans sa prime jeunesse, et qui file vers un vert un peu acide en vieillissant, sachant que les spores sont tombées, que la partie reproduction est quasi assurée, et donc cette mousse dans laquelle sont contenus les spores commence à prendre une teinte de vert. En vert, n'empêche que sa chair est très subtile et très fine. Bien sûr, le cep de Bordeaux se sent très bien, il libère des parfums et des arômes magnifiques de sous-bois, auxquels bien sûr personne de vous n'aura échappé, j'imagine, enfin en tout cas je l'espère. Il est assez ferme, il est peu spongieux et il se consomme juste passé à la poêle ou juste cuit, doucement pour garder sa texture, mais quand même plutôt cuit. Il donne par ses arômes et il pousse sous les chênes et sur les bordures de talus. Et voilà, et c'est là qu'il libère les arômes les plus subtils, bien sûr. En tout cas, en territoire assez propre, souvent. Donc voilà pour la présentation du premier des cèpes, le cep de Bordeaux. Nous allons maintenant parler, bien sûr, de ce qui, pour moi, est la star incontestée, la tête noire ou tête de nègre ou capette nègre, comme on dit ici. Extraordinaire de par sa présentation comme de par son goût, bien évidemment unique, très très proche des concentrations de la truffe. Alors carrossé comme une boule de muscle, comme un rugbyman un peu rond et très ferme, un rugbyman qui jouerait devant bien sûr, il apparaît difficilement à l'œil nu. Son chapeau noir, auréolé de cuivre ou de bringé, n'apparaît souvent qu'à la faveur du pillage d'une limace qui en a un peu écorniqué les coins, et qui fait apparaître sa chair blanche immaculée dans son chapeau, qui nous permet d'avoir juste l'œil dessus en passant. Le nain, au contour arrondi, se cueille, si possible jeune bien sûr, très ferme, car il est souvent très ferme, quand son capette, le chapeau bien sûr, retombe alentour de son pied disproportionné, et qui donne la forme ronde si caractéristique que nous connaissons. Champignon splendide, c'est le seigneur de nos bois, le plus difficile à débusquer, bien sûr, parce qu'il pousse souvent dans le lierre, quasi dans la terre, et le plus fabuleux à déguster, cru, on en reparlera, ou cuit, et bien sûr, dans tous les cas, avec des des niveaux de dégustation extraordinaires, proches de la truffe. L'huile pousse dans les bois sombres et les baradeaux, frais et ensoleillés, mais surtout à l'abri et en chapelet. Il est rare que quand on trouve un cep noir, on en trouve un seul. On en trouve souvent plusieurs, voire des dizaines. Ça m'est déjà arrivé. Alors comment chercher et apercevoir ce champignon magnifique, mais si difficile, au milieu du mimétisme de la forêt, lorsque toutes les couleurs sont quasi uniques, dans des jaunes, des marrons, des verts foncés, des noirs? Eh bien, on ne cherche pas des cèpes comme on prend l'autobus, comme dirait mon grand-père Victor. Alors, plusieurs règles sont à mettre en place si on veut s'assurer un peu de cueillette et dans de bonnes conditions. Règle numéro 1, entrer dans un bois, sachant que quand on devra en sortir, personne ne doit savoir qu'on n'y est jamais rentré. Ça veut tout simplement dire qu'on doit respecter ce biotope, cet environnement magnifique. Bien sûr que tout ça répond à des règles qui paraissent saines et normales, mais que peu de gens malheureusement appliquent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer à la vitesse grand V pour taper de tous les côtés. Le bâton n'est nécessaire que pour éviter, pour moi, les toiles d'araignée que vous trouvez à mettre sur votre visage ou autour de vos bras. Mais il n'est absolument pas utile pour chercher des champignons. Le bâton, c'est une canne et c'est un chasse-araignée. Mais c'est surtout pas quelque chose qui permet de gratter, d'enlever la couche superficielle du sol, certainement pas. Ou de taper sur la végétation. Règle numéro 2, donc le bâton, simplement pour éviter les toiles d'araignée, jamais pour fouiller le sol, jamais pour taper sur la végétation. Règle numéro 3, aller le plus lentement possible, bien évidemment. Face à la lumière, c'est évident, vous me le redirez une fois, vous verrez, quand vous y pensez, et en marquant des arrêts fréquents. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que le cep, c'est d'abord de l'observation. L'observation est le seul gage de réussite avec la patience. Alors je vais m'attarder dessus parce que c'est très important, là je vais me permettre de vous donner un conseil fantastique pour la cueillette des champignons. Quand je dis faites pivoter votre corps, et ouvrez grand vos yeux, faites aussi fonctionner, bien sûr, vos narines, parce que tout ça est intimement lié. Pour l'apercevoir, comment faut-il faire? Voici une méthode quasi unique. Dès que le miracle opère et que le cep est aperçu, il faut d'abord déjà en voir un, bien sûr, alors vous vous positionnez devant et vous le fixez pendant 15 à 20 secondes non-stop. Il faut imprimer sur les plaques sensibles de votre cerveau ces photos, ces images de ce cep. Et ça passe par l'observation pendant 15 à 20 secondes, au moins 15 à 20 secondes, du champignon dans son site naturel. Quand vous avez commencé à emmagasiner tout ça dans votre cerveau, alors vous faites bouger un peu votre buste, je vous le disais tout à l'heure, bouger votre buste et vous allez de gauche à droite, de droite à gauche, balayer du regard le territoire en passant chaque fois sur le champignon. La méthode est imparable. Vous verrez, vous arrêtez sur le cep une seconde ou deux en traversant de droite à gauche, de gauche à droite. Vous arrêtez sur le cep une seconde ou deux. Quand vous aurez fait ça, vous verrez qu'après, au premier coup d'œil, vous verrez tous les champignons du bois. Et vous le faites à plusieurs reprises. C'est la méthode imparable et celle que mon grand-père m'a apprise. Et un jour, je vous assure, vous m'en remercierez. Observez, bien sûr, observez les alentours car un cep est rarement seul. La présence d'autres champignons peut aussi vous conforter dans vos chances, bien naturellement. Par exemple, la présence de champignons qu'on appelle, je ne sais pas quel est leur nom savant, les mères de cep. Ce sont des espèces de pleurotes, très gros, avec un chapeau relativement plat, qui poussent dans des zones sur lesquelles poussent aussi les cep. Et ces champignons viennent avant les cep. Ce qui veut dire que quand il y en a, normalement, il y a des cep en cours ou des cep à venir. Donc n'oubliez pas ça non plus, c'est facile, champignons blancs, genre pleurote, et vous verrez que ça vous permettra de débusquer des cèpes sans problème. Donc voilà pour cette règle, mais elle est très 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 importante, vous verrez que si vous l'appliquez, vous en trouverez sans problème. Alors comment le cueillir? Parce qu'un cèpe, quand même, ça se respecte. Alors bien sûr, la délicatesse est de mise, avec délicatesse et en pensant à l'avenir et aux prochaines pousses de champignons. C'est bien sûr ce qu'il faut avoir en tête. Alors, inclinez le champignon que vous avez dans votre main et le faire pivoter sur son pied jusqu'à l'arracher, mais en douceur, bien évidemment. Il faut que le mycélium soit resté cloué au sol. Il ne faut pas casser ou couper la tige du cep, la jambe du cep, parce qu'elle pourrirait, elle va finir de, d'intoxiquer le mycélium en pourrissant. Donc il ne le faut surtout pas, il faut incliner et bouger la tige de cèpe pour pouvoir le récupérer en laissant le pied, la base du pied. Ensuite, vous recouvrez le trou laissé béant, avec de la mousse pour protéger le mycélium et repartir, donner avec des regrets aux futurs chercheurs, bien sûr, naturellement. Bon, faut pas non plus laisser les morceaux de champignons que vous avez laissés sur place, puisque ça va un peu les décourager. Essayons d'être cohérents, voilà. Couvrons le pied du cep que nous avons ramassé. Avoir nettoyé, c'est important. Après, on disposera quelques fougères en fond de panier pour poser les champignons dessus, bien sûr. Un panier étant quand même plus agréable qu'un sac plastique, type Carrefour, type Leclerc ou d'autres, je ne nommerai pas, y compris Maqueux, Donald, bien sûr, encore moins. Naturellement, donc, comment avoir ramassé les champignons sans penser à les préparer ? Ça va de soi. La préparation, elle est assez minutieuse et elle ne l'est pas forcément. Ça dépend surtout comment vous aurez coupé et rangé vos champignons dans votre panier. Quand vous êtes dans une région qui est plutôt un sol de sable, comme la Haute-Lande, pensez à très très bien nettoyer vos champignons, car sinon des grains de sable vont s'immiscer dans la chair, ils vous crisseront sous la dent, ce sera épouvantable, et vous ne pourrez pas les déguster. Donc pensez bien à les nettoyer, à les râper avec un couteau, enlever une petite lamelle, et à bien enlever tout le sable. On coupe les cèpes frais en morceaux plus ou moins gros. Je dirais pour le cep de Bordeaux, qui va moins cuire, et qu'il faut toujours cuire dans tous les cas, plutôt des morceaux plus gros, à mon sens, qu'on fait dorer, au début bien sûr donc sans gras, et ensuite avec un peu de gras, dès que le peu d'eau qu'ils contiennent, plus ou moins, ça dépendra du moment, sera dégorgé. Pour ce qui est du cep noir, moi je verrais plutôt des morceaux plus petits et qu'on peut faire passer peu à la poêle ou dans la friture, et surtout pouvoir les manger crus, mais on va en reparler bien évidemment. Donc on met les ceps dans une poêle chaude à feu moyen pour leur faire rejeter l'eau en excès, ceci évidemment sans gras dans la poêle au début. Dès que l'eau est quasiment entièrement partie, alors vous ajoutez un peu de graisse d'oie ou de canard et vous faites cuire doucement jusqu'à atteindre la fermeté souhaitée. Certains les aiment tendres, d'autres les aiment, comme disait ma mère, cruspettes. Voilà, cruspettes, c'est plus, pas comme des chips, mais presque. Voilà, ou avec le moelleux que vous souhaitez, bien évidemment, et ça, c'est à chacun de le dire. On peut incorporer, évidemment, en fin de cuisson, une persillade si vous le souhaitez, en respectant le goût du cep, c'est-à-dire pas trop d'ail et de persil quand même. Le goût du cep doit toujours dominer, enfin pour moi c'est une règle élémentaire. Les petits ceps marrons, eux, seront coupés en grandes lamelles, épaisses ou en deux. Les noirs peuvent par contre, comme l'orange, comme la manite des Césars, être effilés et consommés comme un carpaccio, avec une légère vinaigrette, soit au citron, soit à l'échalote. C'est une véritable merveille, on va s'approcher de la truffe. Le cep noir, très concentré, a ce goût fantastique qui permet de le consommer cru, et vraiment avec un plaisir absolument incroyable. Il a une puissance que vous n'oublierez pas de sitôt. Alors ces ceps peuvent aussi être consommés, bien sûr, sans additifs. Je sais même que ma grand-mère allait comparer à quelques hosties salvatrices. Bon, je ne sais pas, je ne fais pas de prosélytisme, je ne voudrais pas aller jusque-là, mais un moment, on est quand même dans quelque chose d'assez quasi miraculeux quand on a en bouche un goût aussi fondant et aussi merveilleux que celui de ces lamelles de cèpe, surtout si elles sont crues à mon avis, parce qu'elles gardent toute la fraîcheur et la force du sous-bois. Voilà. Ce que je vous propose avant de passer à la dégustation, c'est d'écouter un peu de musique. Et à tout de suite pour la dégustation des cèpes.
Un après-midi d'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la cambrousse. Les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi, c'est le chant du silo qui suffit, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Il pleuvait beaucoup ce jour-là, heureusement. surtout des pochons solides. Là-bas, les vaches nous regardaient d'un air complice et détendu. Il y avait plus qu'à s'y mettre pour assurer la cueillette. Mangez-moi. C'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Est-ce que c'est un bon? Mais non, c'est pas un bon, car y a pas de téton. Et puis il est trop plat, il a pas la bonne couleur. Ne nous décourageons pas, ouvrons les oreilles et
salut, c'est Lou Gourmandaz, vous êtes bien sur MDM 93.8 Chalosse-sur-Sang, 101.1 Mont-de-Marsan. Et si nous revenions à nos cèpes, à nos champignons, bien sûr qu'on va parler de dégustation, il manquerait plus que ça, parce qu'on est dans une époque maintenant où tout va se déguster de l'air que l'on va sentir, aux couleurs que l'on va voir toute la journée, à nos balades dans les bois, et à cette conscience tranquille que nous obtenons quand on part et qu'on passe des moments inoubliables à lézarder, à regarder le ciel, à regarder les arbres, à regarder les oiseaux, à regarder la migration. Voilà, c'est le moment de la migration, c'est le moment des champignons et c'est le moment forcément où on va se retrouver avec plein de potes et plein de gens pour déguster, ce qui n'est pas la moindre des choses, loin de là bien sûr. Donc après avoir choisi vos amis et les personnes avec lesquelles vous allez déguster, bien sûr, on va se positionner autour d'une table. On va essayer d'éviter un peu le pastis 51 parce que ça encroûte un peu la langue, quoi. Et on va essayer de garder le palais vierge de goût pour pouvoir se coller toutes ces saveurs-là à l'intérieur de la bouche et les faire tourner sur notre langue. Donc, en consommer des champignons, c'est les consommer seuls, pourquoi pas, bien sûr. Les consommer aussi dans des plats, les consommer avec des mets associés. On va regarder tout ça. Les consommer en accompagnement, les consommer en sauce, peut-être aussi tout simplement reporter la consommation en les faisant en conserve pour les garder au chaud pour les longues soirées d'hiver. Ça va de soi. Alors, dans un premier temps, on pourrait parler de consommer seul, on en a déjà parlé bien sûr. Pour moi, les petits champignons, le cèpe de Bordeaux, mais surtout le noir, très concentré, très ferme, il faut le couper en lamelles, essayez ça une fois dans votre vie, et consommez-le, je ne sais pas, comme une hostie, mais de la même façon en tout cas, avec des lamelles fines du carpaccio de cèpe, sans rien, ou avec une petite pointe de vinaigrette au citron ou à l'échalote. En tous les cas, vous allez vraiment vous régaler et trouver cette texture plus ce goût assez extraordinaire. Donc n'hésitez pas à consommer les champignons seuls, ça fait appel à des champignons petits et très fermes, encore une fois. Bien sûr, la première des conditions de consommation dans le secteur, je pense, lorsqu'on est dans une bonne palombière, que l'on déguste des verres, que l'on boit d'une seule tirée en attendant les palombes, eh bien sûr, c'est l'omelette matinale. Après avoir été faire une cueillette autour de la cabane, elle se présente ici avec une belle douzaine d'œufs, mais l'omelette au cèpe persillé, bien évidemment, qui sera de mise. L'omelette, elle se prépare un peu épaisse, bien sûr, bien remuée, bien mélangée, et avec des cèpes moelleux dedans. Alors, moi, je n'aime pas le cèpe cruspette à l'omelette, j'aime bien les cèpes moelleux. Donc, on les fait passer un peu, mais qu'ils restent un peu mous. Et on va les intégrer, les adjoindre avec une petite persillade, et surtout avec des petites pommes de terre hachées comme une brumoise un peu, en tout petits morceaux qu'on aura eu la délicatesse de passer avec un peu de gradois avant à la poêle, tout doucement, pour les faire toujours très très moelleuses, qu'on va mélanger, ça va donner de la longueur, de la structure à cette omelette et au cèpe surtout. Et ça va faire quelque chose de très compact en même temps, mais pas contact serré, contact très moelleux et très 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 agréable. Donc les ingrédients: des bons œufs bien sûr de ferme, des cèpes que vous avez légèrement poêlés, une petite persillade fine et des petites pommes de terre hachées très menues que vous avez préalablement passées à la poêle, qui seront tétanes, qui vont donner le consistant et la douceur à la fois. Tout ça, vous m'en direz des nouvelles. L'omelette doit être un peu épaisse, mode espagnol un peu, n'hésitez pas à la retourner, n'hésitez pas à l'épaissir, vous verrez que vous serez gagnant et vous trancherez là-dedans quelque chose qui, sur un bout de pain frais, va vous donner le meilleur de la journée à la chasse à la palombe. Alors, si vous avez dégusté l'omelette, bien sûr, bon, ça, c'est facile à faire. C'est assez facile à réussir pour tout le monde. On pense, bien sûr, aussi le cèpe en accompagnement. Ça va de soi. Donc là, les morceaux, pour moi, ce serait plutôt gros, plutôt des morceaux carrés qu'on va faire ou en petites lamelles. Et on va aller jusqu'à la cuisson ferme si souhaité. Donc, au début, s'il y a de l'eau, on reprend le même principe. On passe 100 gras, on fait éjecter l'eau. Dès que l'eau est partie, on corrige l'assaisonnement. Et un peu de gradois pour le faire revenir doré. Ensuite, vous allez jusqu'à la consistance qui vous va bien, bien sûr. Alors là, on verra après avec quoi l'associer. Ça ne sont pas les plats qui manquent pour associer des cèpes, naturellement. Il va être le meilleur copain de tout ce que nous aimons bien ici dans la région. Troisième façon de faire les cèpes, bien sûr, c'est la sauce. C'est le privilège des vieux cèpes qu'on va aussi pouvoir faire, et je vous en parlerai aussi, au barbecue, parce que c'est beaucoup moins connu. Vous avez des cèpes plutôt gros, plutôt vieux, plutôt quasiment vermoulu, c'est pas l'expression, mais bon, avec un peu de monde à l'intérieur, quelques locataires, ça n'est pas grave. Ces cèpes-là, vous allez les cuire en sauce, on va les faire fondre, on va les lier avec une sauce, et on va la relever un petit peu, et on va obtenir quelque chose, pas de crémeux, mais de pas loin de crémeux, que vous pourrez bien sûr mettre dans des assaisonnements, dans des cuissons de salmi, mais aussi pour manger en sauce comme ça, tout simplement, autour de plats grillés, de plats rôtis. Il ne faut pas oublier que la sauce au cèpe, ce n'est pas que pour lier le salmi de palombe, hein. C'est quelque chose qui va très très bien se magnifier à travers elle-même, pour que vous puissiez améliorer et adoucir des plats de viande qui vont vous donner tout le fumet du sous-bois en même temps. C'est le privilège des vieux cèpes ou des moins jolis. On peut aussi utiliser les catégories secondaires, comme le bolet B, ce qu'on appelle le bleu, comme le cèpe à pied rouge, bien évidemment, qui est délicieux, très proche de la tête noire, qui a faculté à bleuir quand vous le ramassez et à reprendre sa couleur initiale quand vous le mettez à la poêle. Très très bon. Alors attention à ne pas mettre le bolet de Satan, hein, parce que lui, bon, sinon, il va vous faire quelques douleurs d'estomac, et peut-être même davantage. Mais normalement, bon, tout ça est assez facile à retrouver. On pense surtout aux bleus quand on fait de la sauce, parce qu'on se garde les très très bons pour les manger comme ça, et les bleus peuvent être confondus dans une sauce, c'est pas bien gênant. Dans l'expertise, donc, pour la réussir, ben, il faut s'éloigner donc, du point de cuisson, ou se rapprocher de la recette de chefs cuisiniers qui ont donner ici le meilleur d'eux-mêmes et que l'on connaît aujourd'hui très bien à très haut niveau. Je pense surtout à la recette qui est sur Internet disponible aujourd'hui d'Alain Dutournier, notre grand chef gascon. Voilà, qui est un peu exhaustive et un peu technique, mais vous verrez que si vous la suivez bien, vous la réaliserez assez facilement. La recette de la sauce aux cèpes d'Alain Dutournier, il n'y a pas que celle-là, bien sûr, hein, puisqu'il va, pour ceux qui malheureusement ne vont plus en attraper cette année, mais bon, ce n'est plus qu'un souvenir, vous donner des recettes comme le pinceau, un salmi ou l'ortolan. Voilà, mais lui, bon, il vous met encore toutes ses recettes et la recette de cèpe, jusqu'à preuve du contraire. Vous pouvez la prendre, il n'y a aucun problème, et vous pouvez la faire. En la suivant au plus près, vous serez ravi, bien sûr, et merveilleusement surpris de votre talent à conduire une recette aussi compliquée. Donc c'est celle qui est la plus proche de celle de nos aïeux, de nos grands-parents, hein, donc les cèpes en sauce. Donc je vous ai dit, les cèpes au barbecue, les mêmes qui peuvent vous faire la sauce, n'hésitez pas à les utiliser au barbecue. Eh bien, parce que vous les mettrez comme une galette, ils vont se rétrécir, perdre du volume, se devenir compact, quasi compact, avec une couche verte en dessous. Et à ce moment-là, vous les piquez de petits bouts d'ail. Quand tous les verts sont partis, vous verrez, ils vont sauter dans la braise. Donc, il ne restera bientôt plus que du cèpe. Et ce cèpe, comme une galette, ça, c'est une pure merveille. Essayez ça. Le cèpe qui est passé au grill devient une véritable galette. Vous le piquez d'ail. Et vous le consommez comme ça, sur du pain comme la bruschetta un petit peu, avec une pointe de l'huile d'olive. Ça, c'est à pleurer, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, bien sûr, ben, si vous en reste encore, vous pouvez toujours faire de la conserve. Moi, je mets ça au congélateur sous vide quand ils sont très frais. Outrement, je fais une pré-cuisson à l'huile et je stérilise en bocaux environ 1h30 dans l'huile. Bon, les champignons ressortent nickel. Vous pouvez les utiliser derrière en plein hiver avec le maximum de succès, le maximum de plaisir. Ils n'auront quasiment rien perdu de leur goût, et de leur qualité que vous avez à la saison. Alors, pour se rappeler quand même un peu quels plats vont avec les cèpes. Bon, on va pas se faire des dessins pendant 107 ans. C'est très facile, évidemment, d'allier le cep comme accompagnement à des plats. Ici, bien sûr, si on a la chance d'avoir du cochon noir, ou même pas noir, mais du bon, du rôti de porc, bien évidemment, un rôti de porc, c'est merveilleux pour faire avec des cèpes. Du filet mignon aussi, que vous pouvez poêler ou passer à la plancha, avoir un peu mariné au préalable. Vous faites ça qui est très tendre avec des cèpes frais. Du filet de bœuf, bien évidemment, mais tout le bœuf, l'entrecôte, la loyau, mais aussi la bavette, mais aussi la côte, le bœuf, bien évidemment. Le bœuf en général avec du cèpe poêlé, du très bon cèpe poêlé. Allez jusqu'au noir, parce que la viande peut tenir le coup. Allez jusqu'au cèpe. On pense bien sûr au canard, avec le magret de canard, naturellement, même le confit qui sera plutôt avec le cèpe de Bordeaux, le confit avec des cèpes plus doux, le cèpe de Bordeaux, le magret avec de la tête noire, bien évidemment. Alors après, un peu mon péché mignon, l'agneau bien sûr, en carré, en côtelette, le rôti d'agneau, surtout l'épaule, et le gigot bien évidemment, mais surtout l'épaule, si vous le pouvez au barbecue ou à la cocotte, avec des cèpes frais, c'est une pure merveille. Pour le gibier, bien évidemment, ça va de soi. La palombe, la bécasse, le chevreuil, le sanglier, le lapin de Garenne et le lièvre, bien sûr, en civé. Des civets avec, à la deuxième ou troisième cuisson, ben, des cèpes, bien évidemment. Les plus forts, des noirs, bien évidemment, qui vont prendre encore une demi-heure ou une heure à cuire dans ce jus et à vous le rendre un peu plus merveilleux. Alors, quel vin peut-on boire avec ces magnifiques champignons? Ben, si on les prend seuls, bien évidemment, on va essayer de recopier, de retrouver, de recoller au sous-bois. Bien sûr que naturellement, le cep, c'est d'abord le sous-bois, c'est le côté animal, c'est le côté aussi végétal, mais très parfumé, très fort, très truffé. Donc on va essayer de trouver des cépages qui sont sur des terroirs dans lesquels on va retrouver cette abondance de parfums très forts de sous-bois, ce nez de champignons, ce nez de parfums dit animaux pour le vin. Comment? Alors là, en priorité pour moi, ben les grands médocs des appellations communales, hein, entre Margaux, Pauillac, Saint-Estèphe, Listrac, Moulis, enfin j'en passe, et des meilleurs, tout ce qui est le plus fin, et Saint-Julien bien évidemment. On peut aller aussi vers des Bourgognes, naturellement autour de Beaune, tant qu'on y est, pourquoi pas. J'ai personnellement un faible... personnellement pour les Nuits Saint-Georges et pour les Pommards, aussi pour des Volnay, mais surtout pour les Nuits Saint-Georges et des Pommards qui ont une très grande subtilité et une abondance de fruits rouges, mais aussi ce côté fumé un peu extraordinaire. Ma préférence va quand même au sud-est, à la côte du Rhône septentrionale, avec naturellement la côte rôtie et son lard défumé que vous retrouverez aussi allègrement dans les Pessac léognan, notamment bien sûr dans le Haut-Brion. Voilà, mais surtout ce côté lard défumé unique, très puissant, qui va dominer le champignon. Donc c'est la côte rôtie, bien sûr, et certains ermitages trop superbes de cette côte-là. Dans le sud-ouest, bon, on peut aussi bien sûr se régaler, et nous sommes ici, on va rester entre nous, pourquoi pas. Alors moi, je vais vers deux cépages types, c'est le cépage Tanat et le cépage Malbec, bien évidemment. Le Tanat que nous trouverons dans les Madirans, aujourd'hui les Madirans à 100%, de vins qui se boivent très gouléants, très jeunes, comme les vins de chez La Place, et des grands Madirans, le Pétrus du Madiran, de Brumont, bien sûr, le Montus et Bouscassé, mais surtout Montus, voilà, qui va vous régaler les papilles et pouvoir tenir très largement les effluves très fortes des cèpes. Et ensuite, donc, dans la règle, bien sûr, vin et champignons doivent se respecter. Si vous buvez des champignons pas très forts, c'est plutôt du vin plus léger. Et sinon, ben, passez aux grands crus et à ceux qui sont les plus puissants, bien évidemment. Voilà, on pourrait en parler pendant des heures, mais ça fera l'objet certainement d'une autre chronique. En attendant, merci pour votre écoute et à très bientôt sur nos ondes.